Bonjour. Alors, nous poursuivons, comme l'a dit Stéphane, dans le livre, dans un des livres de la Bible, la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée. Et comme je l'ai fait les dernières fois, je voudrais vous raconter précédemment dans 1 Timothée. Vous savez, c'est comme dans les séries, où à chaque fois on a un petit résumé de ce qui s'est passé avant pour se souvenir. Et pour bien profiter du texte qu'on a aujourd'hui, je voudrais l'introduire simplement en rappelant pour qu'on comprenne bien à quoi nous avons affaire ici dans ce livre-là. Paul a écrit, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, qui était un de ses collaborateurs, qui l'a envoyé dans l'église d'Éphèse, la ville d'Éphèse, qui est en Turquie. Et Paul encourage Timothée, il a été envoyé là-bas pour remettre de l'ordre dans une église qui était en mauvaise santé, qui s'égarait de la vérité de l'évangile telle qu'elle avait été enseignée par l'apôtre Paul, et qui aussi, une église qui était en proie apparemment à certaines divisions. Et donc Timothée, un jeune pasteur, avait ce travail-là de pouvoir mettre de l'ordre dans cette église qui s'éloignait de l'évangile. Et donc Paul lui donne des instructions différentes pour un petit peu, Paul est généreux, il vise un petit peu toutes les catégories que l'on pourrait imaginer dans l'Église. Les hommes, les femmes, les anciens, les diacres, un petit peu ceux qui sont appelés à diriger l'Église, ceux qui sont appelés à s'inscrire dans la vie de l'Église, quelle que soit un petit peu la position. Et Paul veut qu'il y ait dans cette Église-là une attitude de prière, de soumission aux vérités de l'Évangile, de fidélité à l'Évangile, et un comportement qui soit irréprochable de la part de ses dirigeants, et notamment des anciens, face à des personnes qui annonçaient des vérités et dont le comportement était complètement aux antipodes de ce qu'ils enseignaient. Et nous arrivons donc désormais, dans le texte de notre jour, à un moment où Paul va arriver un petit peu à la conclusion de cet enseignement-là, avant d'ouvrir après un autre. Voilà, ça risque de se reproduire, d'accord? Je vous le dis pour vos cœurs, on a une cardiologue dans l'église, vous inquiétez pas. Elle est malade, mince, dommage. Bon, je prierai pour vous. Donc, la question pour Paul, l'enjeu de Paul ici à ce moment-là de notre texte, ça va être, après avoir donné toutes ces recommandations, Paul va lier la gerbe et dire quel est le but de l'Église. Alors, je vais vous demander maintenant d'écouter le texte que je vais lire. Et le texte de ce jour est au chapitre 3, les versets 14 à 16. Voici ce que dit donc Paul à Timothée. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le mystère du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Et là, Paul va ensuite faire réciter apparemment un cantique qui était déjà chanté dans l'Église primitive et qui est merveilleux. Il dit: Il, Christ, s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru à lui dans le monde entier et il a été élevé dans sa gloire. Voici de ce beau texte où Paul déclare quel est le but de l'Église. Et je crois qu'il y a un but qui nous est présenté avec deux facettes. quel est le but de l'Église ? Eh bien, la première de ces facettes dont parle ce texte-là, c'est de, le but de l'Église est de vivre une foi qui soit cohérente à la vérité. Dans cette Église d'Éphèse, où il y avait un gros décalage entre l'Évangile qui lui avait été enseigné et puis l'enseignement qu'il vivait en s'étant détourné de l'enseignement premier. Il y avait aussi un décalage entre la manière de vivre qui doit découler normalement de l'Évangile et la façon dont vivaient les gens dans cette Église, qui était de plus en plus éloignée des standards voulus par Dieu qui sont bons pour nous. Et soyons honnêtes, ce sont des choses auxquelles nous pouvons nous identifier. L'Église, d'une manière générale, peut s'identifier à ça. Il y a toujours une tension entre ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés à être. Il y a une tension entre la façon dont nous nous conduisons et ce que nous professons croire. N'est-ce pas ? Et l'écart qu'il y a entre les deux, eh bien, c'est là tout notre travail. Là où nous devons apprendre à conformer notre comportement aux vérités auxquelles nous croyons. Et malheureusement, c'est d'ailleurs une des armes, un des arguments pour celles et ceux qui remettent en question le bien fondé de la Bible pour les hommes. Combien de fois j'ai entendu, et encore récemment, quelqu'un qui me disait « Mais regarde à quel point le christianisme a pu faire des dégâts dans l'histoire. Comment est-ce que la Bible pourrait être bonne ? C'est quelque chose qui est obscurantiste, c'est quelque chose qui est d'un autre âge, c'est pour les arriérés. » Il y a encore moins de 2 semaines, j'étais assez mal quand quelqu'un me demandait comment il se faisait que les évangéliques au Brésil avaient fait élire Bolsonaro, quelqu'un qui est d'extrême droite. J'étais un petit peu mal à l'aise, mais cette personne, c'est étonnant, puisqu'elle elle mentionnait cela, mais par contre, elle oubliait de parler de Denis Mukwege, excusez-moi pour la prononciation, un chrétien médecin congolais qui a eu le prix Nobel de la paix. Et encore une fois, quand on prend quelqu'un, quand on veut donner le visage du christianisme, souvent, c'est facile d'aller regarder ce qu'il y a de mauvais et de mettre de côté les bons exemples. Et toute l'histoire de l'Église a été marquée de bons et de mauvais exemples. Il faut regarder les choses en face. Il faut reconnaître que l'Église n'est pas toujours à la hauteur. Mais les gens qui utilisent cet argument font une erreur, pour moi, dans leur raisonnement. Je vous donne un exemple. Si vous allez demain dans une école d'art, vous êtes en première année et le cours du jour est de reproduire la Joconde. Et vous avez des étudiants qui essayent de peindre la Joconde. Et c'est assez moche. Il ne vous viendrait pas à l'idée de dire que, parce que leur dessin est moche, que Léonard de Vinci n'était pas un génie. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. Il ne faut pas regarder aux copies, mais à l'original. Et le bien fondé de la Bible doit être évalué à son message, à celui de l'Évangile, pas à ce que les hommes en ont fait. Il doit être passé au crible de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la rigueur que nous devons avoir avant de dire si la Bible est bien fondée ou pas, si elle est bonne pour nous, si elle répond aux vrais besoins des hommes. Mais malgré tous les problèmes de l'Église, et je reviens maintenant vraiment à notre problématique, regardez comment Paul l'appelle, il l'appelle la famille de Dieu. L'Église, alors pour nous évangéliques, nous sommes habitués à cela, que l'Église n'est pas une institution, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est le nom de l'assemblée. C'était le mot qui était utilisé pour parler de ceux qui se rassemblaient autour de la même foi et qui font partie du même peuple, le peuple de Dieu. L'Église, c'est les gens. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et ce Dieu, ce qui est extraordinaire, Paul, en parlant à une Église qui a plein de problèmes, rappelle qu'elle est la famille de Dieu. Et ce qui est beau, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que malgré le fait que nous soyons des enfants dysfonctionnels, notre Père, Dieu, n'a aucun problème à s'identifier à cette famille dysfonctionnelle. Il aime et il est plein de patience envers elle, comme elle a été plein de patience envers l'apôtre Paul, dont il a été donné témoignage au début de ce livre, de cette lettre de Paul à Timothée. Et le but de la Bible n'est pas de nous dresser un portrait idyllique, un portrait de famille modèle. Au contraire, les Écritures nous montrent que la famille de Dieu est composée de fils et de filles qui sont des inaptes, qui sont des incapables, qui sont des rebelles, mais qui justement ont reconnu leur misère. Et c'est ce qui fait qu'ils sont devenus enfants de Dieu, c'est qu'ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas capables de vivre la vie à laquelle ils étaient appelés, de vivre une vie qui soit à la gloire de Dieu, et qui ont eu besoin de venir s'adresser à Dieu le Père, et de dire « Je reconnais ma misère et j'ai besoin que tu m'adoptes tel que je suis et que tu me pardonnes. » Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible grâce à l'œuvre du Fils de Dieu qui, lui, est venu vivre la vie que nous aurions dû vivre et qui est mort à notre place. Et dans son amour, c'est ce qui permet à Dieu de nous accueillir tel que nous sommes. Et à cause du même amour, ce Dieu ne nous laisse pas tel que nous sommes, ne nous laisse pas dans notre état, mais nous transforme de jour en jour. C'est pour ça qu'il est fier, lui, de nous appeler comme étant sa famille. Pourquoi avons-nous, dans notre Bible, la lettre de Paul à Timothée, 2000 ans plus tard ? Mais je crois que la réponse nous est dite. Paul dit à Timothée, eh bien, il faut que nous sachions comment il faut se comporter dans la famille de Dieu. C'est extraordinaire. Au travers d'une lettre privée entre l'apôtre Paul et son cher Timothée, eh bien, nous avons un message qui traverse le temps, les cultures, et qui nous permet de savoir ce que Dieu attend de nous. Et Paul nous rappelle qu'on ne peut pas séparer, disjoindre ce que Dieu a uni, la vérité et le comportement. Parce que la vérité transforme notre comportement, nous pouvons dire qu'une vraie compréhension des Écritures se mesure à la façon dont notre vie est transformée progressivement pour que nous nous comportions de plus en plus comme des fils et des filles de Dieu. Et il ne peut pas avoir dans notre cœur de transformation sans un cœur qui ait un ardent désir de se comporter conformément à la vérité qui lui a été révélée, la vérité de l'Évangile. Et ainsi donc, notre comportement est un élément, un critère clé qui révèle quelle est notre spiritualité. La qualité de nos relations, notre capacité à vraiment vivre le pardon, à être capable de nous repentir, de faire preuve de grâce envers les autres lorsque nous sommes offensés, notre capacité et notre désir de servir les autres d'une façon désintéressée, simplement parce que finalement, c'est un frère et une sœur. Et l'image de la famille de Dieu est forte ici. C'est le même mot qui est utilisé pour parler du foyer de Dieu, de la maisonnée de Dieu. Certaines traductions parlent de la maison de Dieu. C'est celle du foyer et c'est fort parce que dans le foyer, dans son contexte, à l'époque pour Paul, la notion de foyer était vraiment liée à l'importance du père de la famille qui avait l'autorité sur sa maisonnée, sur son foyer. Et on ne peut pas vivre dans la famille de Dieu sans avoir une vraie relation avec ce Père et sans vouloir se soumettre à cette autorité-là et sans vivre une vraie communion avec les frères et sœurs. Et vous voyez ce que Paul fait à ce moment-là, c'est qu'il dit « Je vais venir te voir bientôt, mais je t'écris de peur que j'ai du retard afin que tu saches comment il faut se comporter dans la famille de Dieu. » Pour Paul, le comportement de l'Église en tant que famille de Dieu n'est pas quelque chose qui peut attendre. C'est urgent, c'est quelque chose de vital pour bien vivre notre foi. Nous devons vivre vraiment et nous comporter d'une manière digne à ce que Dieu attend de nous. Et souvent, je ne sais pas vous, mais moi, je suis le pro de la procrastination spirituelle. Vous savez, la procrastination, c'est de ne pas arriver à faire ce qu'on doit faire et perdre du temps. Et combien de fois il m'arrive de dire « Ah, demain, à partir de demain, je vais faire des efforts dans tel ou tel domaine de ma vie et mettre en pratique d'une meilleure façon qui honore plus Dieu telle ou telle chose ». Et comme j'aime même le rappeler, Satan, l'ennemi, se réjouit hein, de notre piété tant qu'elle est remise à demain, de notre désir d'obéir tant qu'elle est remise à demain. Mais c'est maintenant. Paul veut que Timothée corrige le tir tout de suite dans l'Église. Ça ne peut pas attendre. Alors, si nous sommes interpellés, et nous savons, nous sommes tous interpellés dans un domaine ou dans un autre, dans quelle mesure sommes-nous prompts à obéir aujourd'hui ? Dans quelle mesure nous pourrions pas dire que le texte de ce jour qui tombe là pourrait nous encourager à anticiper les bonnes résolutions que nous voudrons faire en 2019 et que peut-être nous ne tiendrons pas. Et finalement, la question qui ressort de ce texte, c'est nous comportons-nous au sein de notre communauté comme dans une famille ? Les gens là, entre nous là, est-ce que nous voyons vraiment des frères et des sœurs, ceux qui sont assis sur les bancs autour de nous ? Est-ce que vis-à-vis de notre famille, lien de sang, nous ne laisserions personne dans le besoin ? Nous ne laisserions personne abandonné ? Nous ne laisserions personne triste ? Est-ce que nous vivons notre foi comme un besoin simplement personnel où je vais à un endroit, je me nourris et je m'en vais ? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter dans la famille de Dieu ? En affirmant quelle est la nature de notre famille spirituelle, notre identité, c'est-à-dire la famille qui appartient à Dieu, celle de Dieu, Paul rappelle la grandeur et la sainteté qui doivent inspirer le comportement de tous les membres de cette famille. Et Paul, donc c'est le premier but, la première facette, c'est vivre une foi cohérente à la vérité de l'Évangile qui nous est annoncée. Et la deuxième facette est la suivante, conserver et proclamer cette vérité. L'importance de la vérité est vraiment présente dans toute la lettre et Paul y reviendra encore et encore. Un petit peu avant, au chapitre 2, verset 4, si vous voulez regarder, Paul dit « Car le vœu de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Cette vérité révélée de la mort et de la résurrection de Christ est importante. Et si la parole de Dieu est la seule source de la vérité, la communion de ses enfants sur la terre en est la colonne et l'appui, c'est-à-dire ce qui la dresse et la rend visible. Je trouve ça juste merveilleux. Nous sommes dépositaires de la vérité et elle est rendue vivante, visible, elle est élevée, dressée dans notre monde, dans l'Église, par ce que le Saint-Esprit nous donne à vivre, et elle s'élève comme un moyen de témoignage dans notre monde. Nous ne sommes pas simplement appelés à garder cette vérité, mais à la démontrer, à l'élever, à la dresser haut autour de nous, afin que tout le monde la voie. Dit autrement, l'Église explique la vérité en rend témoignage et la confirme, en démontre, elle est la démonstration vivante de ce que produit l'Évangile dans une vie. Et cette image de colonne aujourd'hui, peut-être, ou de pilier, je vous dis, elle est magnifique parce qu'elle, dans cette société, à l'époque, il y avait dans la ville d'Éphèse le temple de Diane, qui était connu, c'est une des sept merveilles du monde, ou le temple d'Artémis, vous l'appelez comme vous voulez. Eh bien, ce temple-là, les gens le connaissaient, il était beau, il y avait ces grandes colonnes magnifiques. Et une colonne, elle a pour vocation de porter quelque chose. Et l'image du pilier, elle est belle parce qu'elle souligne la mission de l'Église qui est de montrer la vérité de la parole de la même manière qu'une statue ou qu'une colonne est placée pour montrer, élever un magnifique édifice afin que tout le monde puisse le voir. Voici notre but. La vérité du message de Christ est à recevoir, mais aussi à retransmettre. Et l'église locale, l'église à Éphèse, avait comme pour but d'être le témoignage de la vérité, de la puissance, de la validation de l'évangile dans la vie de cette communauté. Et alors que beaucoup d'églises ont une tendance dans une société qui est de plus en plus distante, et notamment dans notre société occidentale, qui a beaucoup plus, de plus en plus de mal avec les vérités qui sont affirmées. On est dans un relativisme moral, un pluralisme religieux, où dans ce contexte-là, on pourrait avoir tendance à dire que la vérité, nous devons la conserver. Mais ce n'est pas la finalité de la conserver. Nous devons la conserver pour l'élever, afin que d'autres puissent y venir également. Comme une colonne, nous devons élever ce message, et c'est pour cela que nous existons. Et j'aime beaucoup ce parallèle qu'on trouve dans Philippiens, au chapitre 2, verset 16, quand Paul dit que nous sommes au milieu d'une génération parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de la vie. Là, c'est l'image d'un flambeau qui est porté, qui brille, la parole de la vie. Et là, dans notre texte, c'est une colonne qui est élevée et qui élève la vérité. Alors, comment cela nous est-il possible? Comment vivre d'une façon cohérente au message qui nous est annoncé? Et comment être cette colonne-là, alors qu'on l'a dit, si on est honnête? On n'y arrive pas. On est une colonne qui ressemble plus à la tour de Pise qu'à autre chose. Hein. C'est... Je relis le verset 16. Paul est en train de dire quel est le but, et d'un coup, il fait, on a l'impression, sans transition, comme ça, pourquoi est-ce qu'il lance ça? Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le mystère du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Une traduction plus littérale est intéressante. Au lieu de parler qui explique plus littéralement ce que dit Paul, il dit « Le mystère de la piété est grand ». Voici ce que nous reconnaissons, le mystère de la piété est grand. Et ensuite, il y a ce poème sur Jésus. Quel est ce mystère? Quel est ce mystère de cette piété, de ce plan de Dieu qui fait l'objet de notre foi? Un mystère dans les Écritures, ce n'est pas un secret. L'autre jour, mon fils me demandait quel était le cadeau qu'on avait prévu pour sa sœur. Et je lui ai dit, écoute, tu sais garder un secret? Il me dit oui. Je dis, moi aussi, je ne te dirai pas. Un secret, c'est quelque chose qu'on ne communique pas. Mais le mystère n'est pas un secret. Le mystère est quelque chose dans les Écritures qui nous est révélé, qui était obscur et qui nous est enfin révélé et qui nous dépasse simplement. Ça dépasse notre compréhension, ça va au-delà. Ça ne la contredit pas, mais simplement, on est trop petit pour comprendre cette grande vérité-là. Et quel est ce mystère? Quel est le mystère de Dieu pour nous permettre de vivre en conformité à sa parole, pour nous permettre d'être cette colonne qui l'élève la vérité de l'évangile dans le monde? Quel est le mystère de cette piété? De prier tant de fois par jour? D'avoir une lecture intensive de la Bible? De faire des réunions de jeûne et prière? Moi, je m'attendrais, quand on me dit, voilà, je vais te révéler le mystère pour être pieux, je m'attendrais à ce qu'on me donne une technique, enfin, une pratique, des instructions. Et Paul dit, voici le mystère, Christ. C'est grâce à la manifestation de Christ, à sa venue sur terre, que notre piété est possible. Que nous pouvons avoir une vie transformée pour que nous vivions de plus en plus conformément à la vérité qu'il est venu révéler. Que nous pouvons être édifiés sur lui-même, le fondement, que nous pouvons vivre et devenir la colonne. Jésus-Christ est le mystère de la piété ou du moyen par lequel toute vérité est produite. J'illustre, nous ne pouvons pas avoir de bonnes pensées à moins que Christ ne nous remplisse de ses pensées. Nous ne pouvons pas faire la moindre bonne chose à moins que Christ œuvre en nous et nous rende capables de faire les bonnes choses. Et regardez quel Christ extraordinaire. Et on comprend pourquoi Paul introduit à ce moment-là en disant que c'est Christ la clé, c'est Christ qui nous rend capables. Paul va introduire ces quelques strophes de ce cantique-là et regardez les contrastes qu'il fait. Il s'est révélé comme un être humain. Là, il parle Christ en bas, au milieu de nous. Et il est déclaré juste par le Saint-Esprit et il a été vu par les anges. Et il a été proclamé parmi les non-juifs, on retourne en bas, on a cru à lui dans le monde entier et il l'est élevé dans la gloire. On dirait que Paul aurait voulu faire une chanson avec des chorégraphies. On lève les mains en bas, on va en arrière, on va sur les côtés. Vous voyez ? Et il veut monter toutes ces dimensions-là de ce Christ. Et il mentionne l'incarnation, le fait que Dieu, dans sa bonté, s'est abaissé et s'est revêtu de la nature humaine. En gros, il parle de Noël. Noël, c'est la fête du Dieu qui est rentré dans l'histoire des hommes, du Dieu qui nous a rejoints, du Dieu qui s'est fait homme. Et la piété chrétienne commence par notre imitation de l'incarnation du Fils de Dieu. Notre piété commence par l'imitation de l'incarnation du Fils de Dieu. Afin de l'imiter, nous devons comprendre qui il était et réaliser quel était ce Christ qui est venu sur terre au milieu de nous. Et pour le comprendre, nous devons méditer sur lui. La clé de notre piété, c'est la personne de Christ. Et c'est lui qui nous transforme. Plus nous tournons nos regards vers lui, plus nous sommes transformés par lui. Et Paul nous rappelle également qu'il a été déclaré juste par le Saint-Esprit. Il fait, comme je vous ai montré, ces allers-retours. C'est-à-dire que l'Esprit, c'est pas, il a été déclaré juste dans le sens où il a été pardonné pour ses fautes. Ce n'est pas du tout ça, parce que Jésus n'a pas fait de faute. Ici, ce que Paul veut dire, c'est que l'Esprit lui a communiqué la pleine approbation du Père pour son œuvre à la croix. C'est la déclaration de sa victoire, son élévation en gloire devant les anges et pour le salut de quiconque croit en lui dans le monde entier. Et voici ce qui est merveilleusement mystérieux. Ou mystérieusement merveilleux. Jésus n'est pas mort seul, il n'est pas ressuscité seul, il n'est pas monté au ciel seul et il ne s'est pas assis à la droite de Dieu seul. Il est mort, ressuscité, monté à la droite du Père, avec nous, pour nous. Il s'est assis en tant qu'époux de son Église. Et nous sommes unis à lui. Nous sommes unis dans sa mort, dans sa résurrection et dans son élévation en gloire. Et en tant que le deuxième Adam, celui qui nous représente devant Dieu, premier-né de tous ses frères, le grand frère de cette famille-là, il nous a ramenés au Père. Et imaginons, là, quand on voit la joie des anges qui nous est racontée à la naissance de Jésus, à sa venue sur terre, dans son incarnation, les anges exultent de joie. Et là, Paul nous parle de ce Christ qui a été vu par les anges dans son exaltation. Et est-ce qu'on peut imaginer la glorieuse réception du Christ ressuscité, vainqueur pour nous au ciel? Et avant de conclure, je voudrais vous citer cette merveilleuse remarque de John Flavel, qui me pousse à la contemplation. Le Père l'a reçu dans ses bras grands ouverts et s'est réjoui intensément de le voir de nouveau au ciel. C'est pour cette raison que nous disons que Dieu l'a élevé dans la gloire, car l'événement qui est appelé ascension pour le Christ est, pour le Père, appelé assomption. C'est-à-dire, il est monté et le Père l'a reçu. Oui, il l'a reçu comme personne n'a jamais été reçu avant lui et ne sera reçu après lui. Alors, comment faire la synthèse de cet enseignement de Paul ? Paul est radical dans ce que nous sommes appelés à vivre. Nous n'avons pas le choix. nous ne pouvons pas nous dire que nous profitons des vérités et des bontés de Dieu à notre égard et de sa patience, tout en rejetant ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne pouvons pas vivre une église, une vie chrétienne, qui ne soit pas étalonnée à ce qu'est une vie de famille. Et c'est un encouragement pour nous tous à vraiment vivre l'église et à l'aimer, à vivre de vraies relations. Et quand on entend des personnes, moi ça me fend le cœur, j'en connais des personnes qui me disent « mais moi j'aime Dieu, mais les chrétiens, je ne peux pas, je laisse ça de côté, c'est comme si on aimait l'époux et pas son épouse, c'est quelque chose qui est un non-sens bibliquement. » On a besoin de cette vie de communion pour apprendre à nous conformer à la vérité, pour édifier ensemble cette vérité dans une société qui est dans les ténèbres et qui se meurt et qui a besoin de la connaître. Nous n'avons pas le choix de choisir comment nous devons nous comporter. Et toutes celles et ceux qui sont parents ici le comprennent très bien vis-à-vis de leurs enfants. Un enfant à la maison, il doit se comporter comme ses parents veulent qu'il se comporte. Mais là où Dieu est extraordinaire, c'est qu'il nous transforme. C'est que lui-même pourvoit aux moyens de ce qu'il exige. Et ce Christ qui était présent n'a pas déserté le monde. Et ces chrétiens qui vivaient sans la présence physique de Christ devaient savoir que ce Christ n'a pas déserté le monde, mais au contraire, il rend possible notre foi et l'alimente en nous permettant ainsi de vivre une foi cohérente. Ce Christ n'a pas déserté le monde, mais au travers de l'Église qui proclame et vit l'Évangile, Christ parcourt le monde et récolte les fruits de son sacrifice et de sa gloire. Alors que cette période de Noël puisse nous rappeler à la fois la venue de Christ, sa mort, sa résurrection, mais surtout que ça nous pousse à dire c'est possible de changer, parce que la clé pour changer, ce n'est pas moi, c'est Christ. Alors je tourne mes yeux vers lui, je m'accroche à lui et je peux m'engager dans l'obéissance. Amen.